Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette rencontre de la librairie Mola. Nous sommes aujourd'hui avec Bruno Patineau. Bonjour Bruno Patineau.
Bonjour.
Alors quelques mots pour vous présenter, même si on vous connaît, vous êtes président d'Arte, auteur, essayiste. On vous doit plusieurs succès, La civilisation du poisson rouge ou Submersion, est vu publier aujourd'hui ce dernier livre chez Grasset, Le temps de l'obsolescence humaine. Je précise, il n'y a pas de point d'interrogation à la fin de ce titre, c'est une affirmation et ça en dit déjà très long sur le sens de votre propos, parce que ce livre, s'il est vertigineux, il est aussi assez sombre, puisqu'il nous appelle quand même tous à ouvrir clairement les yeux sur une mécanique que vous décortiquez et qui est le centre de votre propos. C'est cette révolution qui est déjà en marche, on nous la promet pour demain, mais elle est déjà là, bien présente. C'est celle de l'intelligence artificielle, ou même des intelligences artificielles, comme vous les nommez très précisément dans ce livre. Alors Bruno Patineau, je fais juste le pitch en quelques mots avant de vous donner la parole pour poser le décor. Vous ne m'en voudrez pas, mais votre propos, c'est donc celui sur l'intelligence artificielle, mais vous resserrez la focale sur leurs conséquences sur nos vies, et plus précisément sur notre vie sociale et presque affective. On pourrait même aller jusqu'à la vie amoureuse, vous en parlez aussi dans ce livre-là. Je le dis parce que votre propos est un peu le suivant, c'est-à-dire que sous couvert de nous faciliter la vie, ces intelligences artificielles qui s'immiscent dans chaque compartiment aujourd'hui de notre existence, pavent la voie en réalité à ce qui est notre asservissement. Dans votre livre, on découvre l'homme comme le ravi de la crèche, comme un mouton ravi d'aller se faire tondre avec son consentement absolu. C'est presque une volaille qui est heureuse d'être plumée et disséquée au plus grand bonheur de multinationales qui vont, vous le raconter, s'enrichir dans des proportions considérables. Voilà, c'est juste pour poser le cadre. Bruno Patineau, je pense qu'on est à peu près dans ce chemin-là. Et je voudrais commencer notre entretien par une formule qui a fait ses preuves, en tout cas au fil de l'histoire. On va commencer comme ça. Bruno Patineau, il était une fois l'Internet. C'était en 89, et c'est le point de départ de ce livre. Je voudrais qu'on commence par là. Il était une fois l'Internet et 1989.
Ah oui, alors on va commencer par ça, en reprenant juste, pour être d'accord avec vous sur ce que vous avez dit. Moi, ce qui m'intéresse avant tout dans ces révolutions technologiques et celle de l'Internet dont on va parler, c'est les conséquences sur nos vies collectives, nos vies individuelles. La technique m'intéresse finalement assez peu. Ce qui m'intéresse, c'est nous comme sujet principal. Et donc, effectivement, si vous regardez un peu, je le rappelle dans le livre, si vous voulez, depuis plusieurs années, on essaye de savoir où est le curseur, c'est-à-dire Internet, 1989, pour reprendre cette date-là, on pourrait en prendre d'autres, mais c'est une rupture par rapport à quoi et qu'est-ce que ça ouvre ou clôt comme période. Et ce qui me semble intéressant, c'est que il y a en ce moment, j'allais dire auprès des, on va les appeler comme ça, des gourous entrepreneurs de la tech et autres, cette idée que Internet, en fait, mettrait un terme, on va dire, à Homo sapiens, c'est-à-dire quelque chose qui aurait commencé il y a 300 000 ans, 350 000 ans, et qu'on arriverait dans le transhumanisme ou dans quelque chose comme ça. Moi, plus modestement, et j'essaye d'analyser la révolution numérique en disant non, il me semble, et je suis évidemment pas le seul à le dire, je fais référence aux travaux, à de multiples travaux dans ce sens, que c'est en train de clore une période qui a démarré en 1450 avec l'invention de l'imprimerie, c'est-à-dire on est en train de clore la période Gutenberg. Et donc Internet, c'est à la fois l'interconnexion générale d'abord des fichiers, des savoirs, de l'information. Je fais référence à cette utopie à un moment donné qui a existé au début de l'ère numérique, celle de la bibliothèque d'Alexandrie qui serait à nouveau recréée par l'Internet. C'est ce moment-là. J'essaye, puisqu'on a ici, le temps de détailler un peu ce que pose le livre, de dire une bonne façon d'analyser, à mon avis, la révolution numérique, c'est de la voir comme le produit de deux forces qui sont complémentaires et contradictoires, et qui expliquent beaucoup les évolutions qui sont les nôtres ensuite. Ces deux forces complémentaires et contradictoires sont les suivantes. La première, c'est évidemment le réseau, avec son utopie, pardon, qui remonte à qui est séculaire, en fait, multiséculaire. On trouve des références philosophiques, religieuses, idéologiques, au réseau depuis plusieurs siècles. Je fais référence au XIIIe siècle à un moment donné ou à d'autres. Et le réseau, c'est-à-dire cette idée qu'on va interconnecter d'abord tous les êtres humains entre eux, puis tous les savoirs, puis à un moment donné toutes les choses, c'est une utopie ancienne, mais c'est une technologie qui normalement nous rassemble, c'est-à-dire crée du commun. Oui, on va dire, si j'étais dans la pop culture, je vous dirais c'est le côté clair de la force. Et donc, et pour faire référence à nos amis de Star Wars, c'est-à-dire le réseau, c'est une force profondément centripète, ça rassemble, ça nous réunit, ça permet le partage, normalement le dialogue, la conversation. Un des utopistes du numérique première époque disait même que ça créait la noosphère de Pierre Teilhard de Chardin, c'est-à-dire la mise en commun des consciences humaines. Mais l'autre force contradictoire, c'est l'économie de la donnée. C'est qu'évidemment, pour que ce réseau fonctionne, il faut qu'il partage des données. Alors d'abord, il y a les données techniquement nécessaires à la connexion ou à l'interconnexion. Et puis, petit à petit, le mode de financement des entreprises numériques va faire que cette économie de la donnée va extraire de plus en plus de données, pas seulement pour fonctionner, mais aussi pour, j'allais dire, vivre économiquement ou se déployer économiquement. Et donc là, on va rentrer dans une force qui est profondément extractive, on va y revenir ensuite, qui va extraire de plus en plus de données. Et au début, la donnée nécessaire à la connexion, donc votre adresse IP ou quelque chose comme ça, puis ensuite, la donnée nécessaire au fait de répondre à vos requêtes. Donc, à un moment donné, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Puis ensuite, la donnée nécessaire aux publicitaires. Qui êtes-vous de façon assez approfondie? Puis, comment vous comportez-vous? Quels sont vos goûts? Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, des données qui ont de plus en plus à voir avec des données cognitives, votre mode de pensée, votre graphe cognitif, comme le disent les techniciens, puis de plus en plus, vos humeurs. Et donc, cette économie de la donnée, elle est profondément, c'est une force profondément centrifuge, elle fragmente en permanence les choses, on y reviendra après, mais et donc vous avez deux forces contradictoires, l'une qui rassemble, l'autre qui fragmente, qui sont à l'œuvre. Et pour en revenir, puisqu'on parle depuis le début de cette révolution de l'Internet, on va dire que dans les trois étapes que j'essaye de définir ou de nommer jusqu'à présent, dans cette révolution numérique, on s'aperçoit que, étape après étape, la force de l'économie de la donnée l'emporte de plus en plus sur la logique du réseau. Et donc, ce qui fragmente l'emporte sur ce qui rassemble. Donc, depuis le début de l'Internet, c'est cette révolution-là qui est à l'œuvre.
Alors, vous parlez de trois phases, Bruno Patineau. On a parlé du début de l'Internet. Il y a l'arrivée du smartphone qui généralise l'accès à toutes ces données, tous ces savoirs qui font référence à la bibliothèque d'Alexandrie dont vous parliez à l'instant, puisqu'on met tout en réseau et tout est accessible en un clic, parfois même très souvent gratuitement. Après, il y a les modèles payants et gratuits qui s'opposent. Mais aujourd'hui, vous parlez de la phase de l'imbrication. Là, on va encore plus loin. Ça fait référence à la fragmentation dont vous parlez. Alors, pour ceux qui nous regardent, la phase de l'imbrication, qui est aussi le fil rouge de votre livre, qu'est-ce que c'est, comment on la comprend et quelles sont ses conséquences? Et après, on ira un peu plus loin sur la fragmentation, parce qu'il y a une expression qui est très intéressante, c'est que vous nous décrivez comme des mines à ciel ouvert dans lesquelles les modèles puisent, creusent et forent sans arrêt.
Voilà, donc les trois phases, rapidement pour parler celle de l'imbrication. La première phase, c'est la phase de l'accès. En clair, tout contenu, j'aime pas beaucoup ce mot-là ou je déteste ce mot-là, mais prenons-le, tout contenu devient un fichier, j'allais dire potentiellement immédiatement accessible en tout lieu connecté de la planète, c'est l'ère de l'accès. Et donc là, on est sur un modèle économique, si vous voulez, qui est celui de la disponibilité ou de la mise à disposition. Et puis après, avec le smartphone, comme vous le dites, arrive la connexion permanente. La connexion permanente permet le partage infini et donc la propagation. Donc, c'est ce que j'appelle l'ère de la propagation. Je reprends le terme là de Dominique Boulier qu'il a utilisé, que je trouve tout à fait pertinent. Donc, l'ère de la propagation, c'est un moment où on va pouvoir partager, viraliser, comme on dit aujourd'hui, non seulement le contenu qu'on partage, mais sa propre opinion, sa réaction, cette conversation permanente. Et donc, un mécanisme d'accélération et d'amplification absolument inouï. Et l'économie qui fonde ça, j'en ai parlé dans un ouvrage précédent qui était La civilisation du poisson rouge, c'est l'économie de l'attention, c'est-à-dire que toute cette économie derrière la propagation vise à nous faire rester le plus longtemps possible derrière un écran et derrière un service particulier, puisque ça se finance par la publicité qui, pour se déployer, a besoin du maximum de données comportementales ou identitaires nous concernant. Depuis l'arrivée dans le grand public des intelligences artificielles génératives, donc en général, on date ça avec la mise à disposition générale de ChatGPT fin 2022. Ce qui se passe là, c'est qu'on arrive dans l'ère de l'imbrication et l'imbrication qui est en fait une double imbrication. D'abord parce que les IA, comme elles commencent à converser, avoir des fonctions, j'allais dire, qui s'apparentent, même si elles ne le sont pas, qui s'apparentent à des fonctions humaines qui ont trait à l'expression ou à la connaissance, eh ben, il commence à y avoir une imbrication homme-machine. Alors nos amis, enfin, je mets des amis entre guillemets, évidemment, mais ceux qui parlent de transhumanisme ou autre vous disent qu'à un moment donné, cette imbrication, on aura des puces dans le cerveau, enfin, ce genre de choses, etc. Ce n'est pas le propos de mon livre, là, aujourd'hui. On y reviendra peut-être. Ça arrivera peut-être ou pas, mais ce qui nous arrive aujourd'hui, ce n'est pas ça du tout. Ce qui nous arrive, c'est cette imbrication permanente dans le dialogue permanent qu'on peut avoir avec des outils sur un très grand nombre de domaines qui peuvent être, vous l'avez mentionné tout à l'heure, des domaines cognitifs, aide-moi à comprendre ça, des domaines informationnels, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, des domaines qui commencent à être un peu de l'ordre de l'intime, écoute, je ne sais pas très bien quoi faire dans ce domaine, j'ai ce problème-là, est-ce que tu peux m'aider à le régler, voir, etc., etc. Donc toutes ces choses-là qui se mettent en place beaucoup plus vite qu'on ne le pense, parce que l'usage se fait à toute vitesse, c'est cette première imbrication entre l'homme et la machine, puisqu'on dialogue avec une machine en permanence, parfois en oubliant qu'elle est une machine et ça a des conséquences dans notre vie réelle. Donc, premier niveau d'imbrication. Le deuxième niveau d'imbrication, c'est entre le réel et la fiction, c'est-à-dire le contenu authentique et le contenu synthétique, ce qui va être fait par les machines et ce qui est produit par l'homme. Une imbrication, et vraiment, le terme imbrication est pour moi important parce que en permanence, on est dans le mélange, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a des vidéos qui sont réelles, mais qui vont être, entre guillemets, modifiées par l'intelligence artificielle, qui font venir un événement, un être humain qui n'est pas là. Enfin, toutes ces conséquences-là. Donc, cette imbrication réelle-fiction, cette imbrication synthétique-authentique, là, ça ne fait pas disparaître le réel, mais d'une certaine façon, ça le périphérise ou ça le banalise dans notre rapport au réel. Donc, cette imbrication, on la vit déjà. On n'a pas attendu d'avoir une puce dans le cerveau ou des membres, j'allais dire, renforcés par des exosquelettes pour la vivre. Nous sommes déjà au début de cette période où nous allons en permanence vivre et interagir avec des machines tout en étant soumis à une production qui sera synthétique et authentique à la fois. Et cette période-là, elle s'est ouverte en 2022.
Et ce que vous dites, c'est qu'elle ne fait que s'accélérer et que ce réflexe IA est en train de s'installer de manière imperceptible, à la fois dans le cognitif, mais aussi, voilà, vous le disiez, dans l'intime. Ça veut dire que ce que vous racontez dans le livre, c'est que ce réflexe-là est pris. Ce n'est plus demain, c'est déjà présent, avec cette vraie confusion fiction-réalité.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai fait un petit clin d'œil en exergue du livre. Il y a une citation d'une chanson des Who qui s'appelle « Won't get fooled again », qui veut dire « On ne se fera pas avoir une deuxième fois », où Pete Townshend parle du fait que toutes les révolutions finalement se suivent et se ressemblent et elles finissent par être trahies. Fin de citation des Who. Mais en réalité, la rapidité d'adoption de ces outils me rappelle très fortement la rapidité, et je parle de mon cas personnel aussi, hein, parce que c'est formidable, la rapidité d'adoption que nous avons eue avec les réseaux sociaux ou ces méthodes d'interconnexion permanente. C'est-à-dire que l'usage est tellement simple, il semble tellement évident, ça a nous, dans un premier temps, ça a l'air de tellement nous alléger la vie ou nous ouvrir de nouveaux champs que qu'en fin de compte, on adopte sans vraiment consentir à ce qu'on adopte. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien, nous tous, hein, ce à quoi on est en train de consentir quand on adopte tous ces outils. Et ce pli, il est déjà pris. Donc, quand vous voyez les évolutions en termes de pourcentage d'utilisation, aujourd'hui, il n'y a plus un scolaire qui n'utilise pas ChatGPT à un moment donné, ou autre, ou Claude, ou ailleurs, pour faire ses devoirs. Ça semble totalement naturel. Nous tous utilisons ces outils-là pour faire des recherches à la place de ce que faisait Google. Et on s'aperçoit que l'utilisation des agents, de ce qu'on appelle l'IA agentique, c'est-à-dire les agents IA dans des domaines de plus en plus élargis de notre rapport au monde, de notre rapport à l'information, à la culture, au divertissement, mais aussi de notre rapport aux autres, c'est un pli qui est déjà pris. Et surtout, ce qui est toujours important quand on analyse ces moments de grande rupture, on ne revient pas en arrière. C'est-à-dire qu'on n'adopte pas pour dire bah, « finalement, ce n'est pas terrible, je reviens en arrière » et non. C'est-à-dire que le pli est pris, c'est formidable, on y est. Et on se dit, tiens, on y est, mais on n'a pas vraiment réfléchi encore aux conséquences individuelles, sociales, collectives, du fait qu'on y va tous, et on y va tous très, très rapidement.
Ce que vous dites dans le livre, il y a aussi une dépendance psychologique qui est en train de se créer à ces outils qu'on utilise tous les jours, finalement, sans plus y faire attention. Et je disais au début de notre entretien que dans votre livre, on découvre l'homme comme un mouton prêt à suivre cette révolution-là sans réfléchir, alors que c'est vraiment un point d'alerte pour vous. On revient toujours sur ce mélange, cette confusion entre fiction et réalité, mais la dépendance est en train de s'installer aussi.
En fait, pour parler de dépendance, il faut parler d'économie à un moment donné. Puisque ce sont des économies qui se basent sur une forme de dépendance à chaque fois. Donc, on a parlé de l'économie de la donnée. Vous mentionniez tout à l'heure dans une question, là, l'économie de la donnée, elle est profondément extractive. C'est-à-dire que, d'ailleurs, oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, plus personne aujourd'hui vous dit l'Internet, c'est gratuit, et heureusement, parce qu'on sent bien que le coût n'est pas monétaire, mais on sent bien qu'il y a un coût pour nous quand même de tout ça. Et ce coût-là, c'est très très simple, c'est les données qu'on transmet de temps en temps volontairement, parce qu'on se dit, bon, finalement, pourquoi pas, et de temps en temps même à notre corps défendant. Mais ce sont des mines à ciel ouvert, et pourquoi à ciel ouvert? Parce que dans une mine à ciel ouvert, la première couche, elle est simple à extraire, et en réalité, la dureté, presque, j'allais dire, la violence extractive augmente à mesure que vous exploitez la mine. Parce que on commence en surface et puis il faut aller de plus en plus loin, et forer de plus en plus loin, et c'est de plus en plus dur, et d'une certaine façon, c'est de plus en plus violent pour la terre que vous êtes en train d'exploiter. Eh bien, nos données, c'est ça, c'est de plus en plus extractive, ça va de plus en plus profondément dans ce que nous sommes, et l'arrivée des intelligences artificielles, effectivement, c'est le moment où on va pouvoir extraire des données d'humeur et des données cognitives, de pensée, de réflexion, encore une fois, de ce qu'on appelle le schéma cognitif de nous. Et tout ça, évidemment, sert à nourrir une économie. Et donc, lorsqu'on était dans l'économie lorsqu'on était dans la période de la viralité, c'est-à-dire la période de la propagation, l'économie qui dominait, c'était l'économie de l'attention. On vous vend de la publicité et donc on essaye de vous rendre dépendant du temps de présence aux outils, c'est-à-dire d'être le plus longtemps possible devant votre écran. J'ai parlé dans d'autres livres, La civilisation du poisson rouge notamment, des outils qui sont utilisés, de façon d'ailleurs publique, hein, pour essayer de nous faire passer le plus de temps possible sur un écran, y compris quand on fait autre chose. Avec les IA, c'est autre chose qui arrive. C'est-à-dire que l'économie des IA, qui est encore en tâtonnement, il y aura des IA publicitaires, il y aura sans doute des IA par abonnement, elles existent déjà. Il y aura des IA aussi qui se financeront parce que quand vous demanderez un conseil à un agent pour comment je peux m'habiller aujourd'hui, il vous poussera peut-être telle ou telle marque. Rien de tout ça n'est régulé aujourd'hui et ça tâtonne, mais on voit que ça arrive. Mais toute cette économie-là qui arrive et à laquelle il faut qu'on se prépare, elle va dépendre en fait de l'investissement émotionnel que nous allons avoir avec tel outil d'IA qui voudra être, entre guillemets, votre outil préféré. Et donc, pour être votre outil préféré, ils vont commencer à développer des outils de je mets des guillemets, de dépendance affective. Mais vous voyez bien, même aujourd'hui, si vous êtes en dialogue, moi je le suis souvent avec ChatGPT, avec Perplexity ou avec Claude, il a tendance à vous flatter. C'est-à-dire qu'il va vous dire que vous avez raison, que de temps en temps, il va vous dire que vous êtes brillant. Quand vous allez commencer à parler d'un souci que vous avez ou d'une difficulté que vous avez avec une personne, il va commencer en vous disant « je pense que c'est toi qui as raison, mais il faut voir, quelle que soit la qualité du prompt ». Et aujourd'hui, les fabricants d'IA nous disent que si on veut éviter cette tendance, j'allais dire à la flatterie, qui promeut une forme de dépendance, ça n'est pas, j'allais dire, au régulateur d'imposer des règles à l'intérieur de ces IA, mais c'est plutôt à nous d'apprendre à prompter bien pour éviter ces biais. C'est là où on en arrive à quelque chose qui est totalement paradoxal. On vous dit, oui, on sait bien qu'il y a un défaut de conception au départ, qui n'est pas un défaut de conception, mais qui est un biais économique. Mais finalement, c'est à vous de vous débrouiller pour ne pas, à un moment donné, y succomber. Et donc, de la même façon que les réseaux sociaux nous ont dit, oui, bien sûr, qu'on polarise et on dépend, et on est ultra dépendant, mais gérez vos comptes de façon à ne pas succomber à ça.
Pour aller pour poursuivre en tout cas dans cette voie-là, vous parlez aussi de quelque chose qui est fondamental avec cette imbrication qui se généralise et en tout cas cette dépendance qui s'installe. Vous parlez de la solitude majeure que va provoquer l'IA. C'est aussi un des paradoxes, c'est-à-dire qu'on discute avec son agent d'intelligence artificielle, il nous flatte, il nous répond et à la fin, on est tout le temps connecté, mais finalement, il y a ce phénomène de solitude qui commence à émerger. Et c'est aussi une des grandes questions que va poser ce développement des IA dans notre vie quotidienne.
C'est un accroissement de la solitude. C'est-à-dire que pour moi, qui ai non seulement écrit sur la révolution numérique depuis maintenant presque un quart de siècle, et surtout qu'il ait vécu comme praticien, parce que j'ai développé le site, je fais partie des équipes qui développaient le site Internet du Monde ou autre au tout début de l'Internet grand public. Le paradoxe qui sert d'une certaine façon d'aiguillon à ma recherche, c'est, et on en a parlé au début, comment quelque chose qui devait nous rassembler tous nous isole petit à petit. C'est quand même ça la question, pour moi, une des questions centrales. Ça nous fragmente, ça nous polarise, ça nous isole. Et si on arrive là, dans le chapitre qui s'appelle « Solitude dans la multitude », parce que ça dit pour moi, en tout cas, l'espèce de paradoxe qui est le nôtre aujourd'hui, on a parlé beaucoup avec les réseaux sociaux qui, normalement, devaient promouvoir une conversation mondiale. Hein, c'est-à-dire, en fait, être tout le temps dans une conversation, donc n'être jamais seul. Et puis, on voit que ça nous a polarisés et ça a créé des bulles de filtres et des bulles de filtres qui nous ont isolés, en fait, avec des gens qui soit pensent comme nous, soit pensent radicalement à l'inverse de nous, puisqu'une bulle de filtre, elle est toujours de... L'IA, aujourd'hui, va être comme une couche, comme une seconde peau, les agents d'IA qui vont nous accompagner tout le temps. Donc on aura d'une façon ou d'une autre des serviteurs, après la dialectique maître-esclave arrive dedans, mais des serviteurs qui vont en permanence nous accompagner et en nous accompagnant, en nous flattant, en étant totalement paramétrés pour nous-mêmes, vont rendre paradoxalement, vont agir comme un filtre dans notre relation aux autres. Non seulement au monde, mais aux autres. Donc au monde, c'est par rapport à la réalité, et aux autres, c'est par rapport à la réalité d'une complexité de relations humaines où on peut être de bonne humeur, de mauvaise humeur, en désaccord, en accord, en attentif, être capable à un moment donné d'avoir plusieurs, j'allais dire, plusieurs couleurs à la palette d'une relation humaine qui est profonde, avec ses dits et ses non-dits. Ça va nous isoler, ça va devenir un filtre aux relations humaines qui sont les nôtres. Et donc, on finit. Le risque, c'est que la bulle de filtre, entre guillemets, que les IA vont créer, ce sera une bulle de filtre individuelle. On sera, je crois que j'ai cette expression-là, à un moment donné, nous-mêmes avec notre miroir, en fait, en dialogue permanent. Et donc, un accroissement de la solitude. Je rappelle dans le livre que déjà depuis 3 ou 4 ans, vous avez plusieurs chercheurs qui diagnostiquent ce qu'ils appellent une épidémie de solitude. Déjà, il y a 4 ou 5 ans, une des premières requêtes sur Google, c'est comment faire pour rencontrer des gens. Ce qui est quand même paradoxal quand vous demandez ça à un moteur de recherche. Et ça, c'était avant ChatGPT et nos amis d'intelligence artificielle et nos compagnons d'intelligence artificielle. Et donc, je crois, oui, évidemment, que la solitude aujourd'hui est sans doute la... la plus grave des conséquences possibles à ces outils-là si, à un moment donné, on ne trouve pas des solutions pour paramétrer tout ça.
Alors, vous allez même plus loin parce que vous évoquez un sujet qui est là aussi complètement vertigineux, c'est que l'IA pourrait même changer notre rapport au deuil, puisque l'IA pourrait nous permettre de discuter avec des défunts. Et c'est un exemple que vous prenez dans le livre. Et donc là, on voit bien qu'on est en train de franchir à peu près toutes les limites, ou de les exploser plutôt.
Ben, c'est toujours l'imbrication entre ce qui est réel, imaginaire ou autre. Alors, effectivement, sur ce rapport au deuil... sur ce rapport au deuil, je cite un certain nombre d'IA qui déjà vous proposent de prendre en charge votre rapport au deuil, alors soit par des vidéos recomposées, soit par la voix qui va être traitée, soit par une forme de chatbot d'ailleurs tout à fait simple. Ce sont des services payants. Et je les ai testés moi-même, mais il y a eu un très long papier auquel je fais référence d'un journaliste de The Atlantic qui a expliqué que sur la durée, il avait paramétré une IA qui était faite pour ça, pour prendre la place de son père décédé 20 ou 30 ans avant. Et qu'il était en permanence, et c'est ça que j'appelle l'ère de l'imbrication, en lutte avec lui-même, parce qu'il savait qu'il discutait avec une machine, et en même temps, émotionnellement, sa réaction était une réaction qui s'apparentait totalement au fait de dialoguer vraiment avec son père. Et ce qui est intéressant dans ce rapport au deuil-là, c'est qu'il dialoguait avec cette IA en lui racontant toute la vie qu'il a eue lui et que son père, décédé 30 ans avant, ne savait pas qu'il avait eu, et en demandant son avis à son père, je mets des guillemets, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait si, est-ce que tu es fier de moi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et il est dans ce dialogue-là où... on n'est pas dans l'hallucination totale parce qu'il sait qu'il dialogue avec une IA, mais on est dans une charge émotionnelle extrêmement forte parce qu'en même temps, l'émotion que ça procure chez lui est une émotion qui s'apparente ou qu'il imagine similaire au fait de voir à un moment donné son père l'appeler de l'au-delà. Et donc cette imbrication-là, elle arrive. Et c'est pour ça que je vous disais, si vous voulez, les réseaux sociaux avant ont déplacé la place de la vérité factuelle dans notre vie, c'est-à-dire dans toutes les conversations. Pas revenir sur des termes avant, la vérité, c'est Myriam Revaud-Allonne d'ailleurs qui en parle très bien dans ses ouvrages. Elle dit la vérité a cessé d'être entre guillemets essentielle dans notre conversation, elle est toujours là, mais elle n'est plus la clé de voûte à cause des réseaux sociaux, des conversations qu'on peut avoir. Et on a vu les conséquences en termes politiques, sociaux, généraux, on les vit chaque jour. Et en 2026, Dieu sait si on les vit.
Bruno Patino, vous l'avez dit, pardon, mais vous dites, pour faire écho à ce que vous venez de dire, l'ère de l'information s'achève.
Oui, c'est ça, parce que l'ère de l'information, c'est une ère où à un moment donné, la clé de voûte, on ne va pas faire appel à Hannah Arendt ou ailleurs, c'est la vérité factuelle qui permet d'avoir une réalité partagée. À partir du moment où la réalité devient périphérique avec les réseaux, et la réalité devient périphérique, avec les intelligences artificielles. On reparle de ce journaliste. Il sait que son père est mort, c'est réel. Mais en même temps, finalement, ça ne devient pas central à la relation, entre guillemets, qu'il continue à avoir avec son père, entre guillemets, totalement fictif. On le voit bien aujourd'hui, dans les mêmes, politiquement, si vous regardez aujourd'hui les vidéos qui se partagent, vous regardez les vidéos qui sont en ligne sur le conflit en Iran aujourd'hui. Je crois que c'est le New York Times qui disait que pratiquement 9 vidéos sur 10 qu'on voit sur les réseaux sont des vidéos qui sont faites par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elles sont faites pour nous tromper? Je ne suis même pas sûr. Elles participent à notre conception aujourd'hui ou à notre appréhension de ce qu'est aujourd'hui ce conflit-là. Donc la réalité, je dis, c'est pour ça que la réalité, à un moment donné, devient comme la lettre volée d'Edgar Allan Poe. Elle est là, elle est sous nos yeux, mais finalement, elle est noyée dans énormément de choses. Et donc, quand vous avez la réalité, la vérité qui n'est plus centrale à la conversation publique et à l'espace public, et quand vous avez la réalité qui devient périphérique, ben oui, l'ère de l'information ouverte par Gutenberg, elle s'effondre, évidemment. Elle s'efface. On rentre dans quelque chose d'autre.
Alors, ce qui sous-tend aussi votre livre, c'est la question de l'asservissement, parce que vous disiez tout à l'heure, le terme maître-esclave va commencer à se réinstaller, en tout cas l'expression va commencer à se réinstaller, sauf que celui qui va être dépendant, c'est l'homme, dépendons de la machine et le rapport s'inverse. Expliquez-nous un peu ça, parce que c'est aussi vraiment un des fils rouges de ce livre avec cette alerte, en fait, en disant qu'on est en train de se donner corps et âme avec notre consentement à quelque chose qui peut potentiellement, qui est en train de nous dépasser. Et ça renvoie au titre du livre, l'obsolescence de l'être humain.
Si vous voulez, ce qui est en train de se passer par cet usage massif, hein, c'est qu'en fait, comme ça s'est passé dans la phase précédente de la révolution numérique, on adopte des services. Donc en théorie, alors si j'allais au bout de l'image, avec les réseaux et autres, on a adopté des services, et maintenant avec les IA, on adopte des serviteurs. Donc c'est formidable, des gens qui sont à notre service. Mais à chaque fois, ce recours aux services provoque une dépendance. Une dépendance aux écrans pour le premier, et puis une dépendance relationnelle de plus en plus forte avec ces outils-là. Et donc, si vous voulez, quand le service ou le serviteur finalement engendre de la dépendance, le rapport de force n'est plus tout à fait le même. Et donc, si vous voulez, là où il me semble très important de mettre l'accent, c'est justement sur ce paradoxe-là. C'est-à-dire qu'on est en train, comme vous l'avez dit très bien, de se livrer volontairement et heureusement, parce que c'est super, c'est pratique, c'est formidable, ça fait des choses extraordinaires, à des services ou des serviteurs qui ne sont pas là pour nous rendre service, mais qui sont là, comme c'est normal dans l'économie marchande, pour développer leur chiffre d'affaires et développer, j'allais dire, leur capacité d'extraire de la valeur sur leur présence à nos côtés. Et juste l'alerte que je donne, c'est que on le fait alors même qu'on ne se pose pas la question justement de comment canaliser cette extraction de valeur ou cette responsabilité associée à cette extraction de valeur. Et donc, je parle beaucoup de Gutenberg, et je fais référence dans un chapitre à un moment donné sur le dire, si on s'était réunis tous les deux pour essayer de dresser les conséquences de la révolution gutenbergienne, on ne l'avait pas fait. Donc en 1450, on s'était réunis en 1500, on va dire, tous les deux. On aurait été très sombre dans l'évolution, des conséquences de la révolution gutenbergienne, parce qu'on se serait dit toutes les cléricatures sont en train de tomber, le savoir est en train d'être volatilisé, on a des faux qui arrivent, tout et n'importe quoi est imprimé, ce qui est vrai à l'époque. Politiquement, les conséquences sont vertigineuses, on voit poindre ce qui va devenir la guerre de religion, des guerres civiles, les guerres de pamphlets ou autres, toutes choses qu'on sait. Et c'est pour ça que je me permets à un moment donné ce clin d'œil en disant finalement, à son époque, Gutenberg fut le premier ingénieur du chaos, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il produit ça. Et en même temps, on se réunit trois siècles après, on fait, je m'appuie beaucoup sur les travaux d'Elisabeth Eisenstein, évidemment, pour dire tout ça, on fait un bilan de l'imprimerie, et c'est Elisabeth Eisenstein, c'est des écrits de 1979, c'est ancien aujourd'hui, mais c'est toujours très pertinent. Ben, trois siècles après, on se dit, bah oui, mais c'est évidemment la science et les lumières, donc c'est la Renaissance, la Réforme, et puis in fine, la Révolution démocratique. C'est ça qui arrive avec Gutenberg, ce qui permet l'explosion du savoir, de la connaissance. Donc c'est extraordinaire, et c'est vrai. Mais ça ne s'est pas fait, si on a dire, sans coup de transition ou coup d'adaptation, qui historiquement est extrêmement important. On a parlé des guerres civiles, des guerres de religion ou autres, sans parler des luttes de pouvoir extraordinaires pour essayer de maîtriser, est-ce qu'on peut maîtriser ce qui est imprimé ou pas, avant que petit à petit, le rôle de l'éditeur arrive, etc. Et nous, on est dans ce moment du coup d'adaptation. C'est-à-dire, on est dans ce moment où on ne se pose pas la question du nouveau cadre pour ce qui vient d'arriver. On pense encore que le cadre légal, législatif, intellectuel et philosophique qu'on a posé avec la révolution gutenbergienne, elle est encore valable avec ce qui arrive aujourd'hui.
Donc, il y a une question qui est en train de se poser dans le coût d'adaptation, c'est le coût économique, notamment pour l'emploi. Vous l'abordez dans le livre. Alors ça, c'est déjà plutôt installé dans le débat public parce qu'on voit déjà des vagues de licenciements liées à l'IA. Et vous dites, vous l'écrivez, le remplacement est déjà à l'œuvre. Et vous avez cette phrase, les fonctions tertiaires du début de carrière sont menacées en attendant que les IA remontent la courbe d'expérience pour rendre superfétatoires les compétences les plus avancées. L'inutilité du travail humain est posée. Là, pour le coup, ça, c'est déjà quelque chose que l'on perçoit, et cette phase de transition, elle s'annonce brutale. Est-ce que là, pour le coup, vous êtes vous aussi inquiet quand on vous lit, ça va pas se passer sans heurts, en tout cas
moi,
sans casse.
Moi, je suis moi, je suis toujours inquiet sur le coût d'adaptation. C'est-à-dire, mais en même temps, résolument optimiste. C'est-à-dire que je crois profondément à l'action humaine. Je ne crois pas au déterminisme technologique. C'est-à-dire qu'évidemment, des fonctions tertiaires vont être remplacées, les fonctions de départ, on l'a dit, mais en même temps, de nouvelles tâches vont être possibles. Quand vous voyez aujourd'hui, il y a des endroits où les gens apprennent à faire travailler des agents, c'est une nouvelle compétence. Elle est terriblement, la charge mentale de faire travailler plusieurs agents d'IA qui, eux, travaillent tout le temps, évidemment, à toute vitesse pour l'être humain, est évidemment extrêmement importante. Donc, des nouvelles compétences doivent arriver. On n'en est pas là pour le moment. Donc, le coût d'adaptation va être très fort. Mais ce qui m'intéresse plus, parce que, comme vous l'avez très bien dit, sur le travail, c'est documenté aujourd'hui. Je l'aborde juste de façon... parce qu'il faut l'aborder, mais ce n'est pas le cœur de l'ouvrage. Le cœur de l'ouvrage, c'est vraiment l'impact sur l'impact, j'allais dire, presque philosophique ou sociologique sur nos vies individuelles et collectives. C'est moi ça qui m'intéresse parce que c'est en train de modifier. Donc, dans le dernier chapitre, j'essaye d'aborder cette utopie mienne que je crois toujours valable, c'est-à-dire que je pense qu'on peut arriver sur un humanisme numérique à terme, si vous voulez. Donc, j'essaye d'aborder absolument ce sujet en disant qu'il faut qu'on se pose un certain nombre de questions. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Il y a les questions, j'allais dire, qui sont typiquement politiques, mais importantes. Quel est le statut des données? Est-ce que c'est un bien privé? Et on voit des empires se construire sur l'accumulation, hein, puisqu'on parlait d'économie minière. Donc, l'économie minière, c'est simple, c'est fragmentation, extraction, raffinage, accumulation. Vous êtes totalement, vous pouvez suivre la métaphore absolument parfaitement avec l'économie de la donnée. Je fragmente, j'extrais, ensuite je raffine avec les algos, puis maintenant les IA, et puis j'accumule. Donc, à un moment donné, quel est le statut des données? Est-ce que c'est un bien privé? Est-ce que c'est un bien commun de l'humanité? Est-ce que c'est un bien public? Cette simple question-là, déjà, économiquement, elle est vertigineuse, mais elle va devoir être abordée. La deuxième autre question, me semble-t-il, c'est une question de la responsabilité. Aujourd'hui, on pose souvent de façon, j'allais dire, anachronique, le débat de la responsabilité des IA en disant c'est des outils. Et donc, comme c'est des outils, bah, c'est celui qui l'utilise qui est responsable. Mais effectivement, si je prends un marteau et je plante un clou et que je détruis le mur, je suis responsable parce que c'est moi qui ai pris le marteau. Déjà, avec les algorithmes, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'un algorithme, à un moment donné, si vous postez un message sur un réseau, vous le postez, donc vous êtes responsable de ce message, c'est vrai. Et vous ne pouvez pas être tenu pour irresponsable. Donc la responsabilité classique, Aristote, Kant, s'applique. Un être humain compétent et conscient de ses actes et qui comprend ce qu'il est en train de faire, pose un message, donc je suis responsable. Mais vous ne savez pas pourquoi. Au bout d'un certain temps, immédiatement, ou dans 2 mois, ou si ça se trouve dans 3 ans, l'algorithme va à un moment donné décider d'amplifier, d'accélérer le message. Est-ce qu'il n'y a aucune responsabilité à l'accélération et l'amplification? Bien sûr que oui. Moi, si ça se trouve, j'ai voulu poster un message qui soit vu par 25 personnes de façon immédiate, et si ça se trouve, dans 3 ans, 2 millions de personnes vont le voir dans un contexte différent. Et donc, on arrive dans des notions, pardon, je ne veux pas être trop long, de responsabilité, ce qu'on appelle imputative, c'est-à-dire qu'on va imputer des domaines de responsabilité, mais il faut réinventer ça. Et troisièmement, parce que je ne veux pas être trop long et je ne veux pas tout décrire ce qu'il y a dans le dernier chapitre, mais je crois que petit à petit, de la même façon que l'histoire humaine, c'est la sacralisation des corps à un moment donné, c'est de dire la torture n'est plus légitime, puis la punition corporelle n'est plus légitime. On va devoir arriver dans des moments où on va devoir sacraliser notre cerveau. C'est-à-dire de la même façon qu'on a sacralisé à un moment donné le corps humain en disant bah, c'est le lieu d'expression d'une liberté, d'une autonomie humaine, sacraliser le cerveau, je mets des guillemets, mais aller dans cette direction-là va, me semble-t-il, devoir être un projet politique.
Alors, ça tombe très bien que vous parliez de ça, parce que dans votre livre, vous abordez aussi cette question-là à l'aune des ambitions des manias de la tech. Et quand on vous lit, les choses sont très claires. Tous ne partagent pas une vision inégalitaire de la société, une vision démocratique de la société. On voit que là se heurtent ces manias de la tech, ont aussi des projets très personnels, avec une vision très apocalyptique. Certains rêvent d'aller sur Mars, d'autres d'avoir des îles refuges, etc. Il y a aussi un côté très science-fiction dans leur démarche. Mais pour autant, ils sont aussi convaincus qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde et que la technologie ne sera pas au service de tous, finalement, et que ça va finalement créer une nouvelle société. Il y a aussi vous alertez aussi sur ce côté-là, parce que ces empires-là sont aux mains de personnalités qui ont des idées très précises sur ce sujet-là.
C'est tout à fait ça. Et effectivement, on peut sourire du fait qu'ils veuillent aller sur Mars, qu'ils vous racontent qu'ils vont créer une nouvelle société sur Mars. Donc, en clair, mais je crois que j'utilise cette phrase à un moment donné dans le livre. Je dis, mais là, ceux qui construisent les arches de Noé, c'est ceux qui font le déluge, en fait. C'est les artisans du déluge, exactement. C'est-à-dire que ceux qui bâtissent les arches de Noé sont les artisans du déluge. Parce qu'en fin de compte, on peut sourire de ça. On peut se dire, ça n'arrivera pas, etc. Possible. Mais ça traduit, comme vous l'avez très bien dit dans votre question, ça traduit une vision profondément inégalitaire de l'humanité. C'est-à-dire que moi, je suis absolument persuadé, je fais référence à un moment donné à un film de pop culture, on ne parle pas uniquement philosophie ou sciences politiques dans le livre 2012, très mauvais film, pardon pour ceux qui l'ont aimé, mais qui est un film qui me paraît, qui a été fait en 2012, et peut-être pour ici juste agrémenter la conversation, donc c'est un très mauvais film qui, soi-disant, c'est un film de pop-corn, hein, soi-disant s'appuyant sur une pseudo prophétie maya qui annonçait la fin du monde pour 2012. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Mais ce qui m'a intéressé dans ce film, parce que d'une façon ou d'une autre, c'était une étape supplémentaire dans la tradition des films catastrophes. Dans un film catastrophe, normalement, à la fin, tout le monde est sauvé, sauf les méchants. Puis après, dans d'autres films catastrophes, le monde était sauvé au prix du sacrifice de ceux qui se sacrifient pour le sauver. Mais là, dans 2012, quand vous regardez ce film en 2026, il est vertigineux parce qu'il est, je pense, profondément raccord avec l'espèce de science-fiction partagée par ces gourous de la tech. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une prophétie, donc le monde va s'arrêter en 2012, et puis tout d'un coup, vous avez des gens qui décident, les gouvernants, entre guillemets, demandent à des milliardaires de financer des arches de Noé. Et à la fin, le film, entre guillemets, se termine bien parce que vous avez, je ne sais pas, 10 000 personnes qui ont été sauvées. Et ces 10 000 personnes qui ont été sauvées, ce sont celles qui ont été capables d'acheter le ticket à plusieurs milliards de dollars, donc des milliardaires, sur ces bateaux construits par des savants qui sont quand même venus avec eux. Donc l'alliance de la richesse et de la science. Tout le reste de l'humanité est mort. Et pourtant, le film vous présente ça comme un happy ending. Donc, vous avez grosso modo 5 milliards de morts ou 6 milliards de morts. Mais ce n'est pas grave parce que les 10 000 personnes qui valaient la peine d'être sauvées, à savoir les scientifiques d'une part et les milliardaires de l'autre, l'ont été. Et je trouve, on ne va pas affiler la métaphore, je trouve que ça illustre parfaitement cette idée profonde. Alors là, on est un peu plus sérieux dans le livre aussi à un moment donné. Et on les recense, si vous voulez, qu'effectivement, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et que cette fragmentation-là, elle est arrivée aussi d'un point de vue idéologique chez ces gourous de la tech, en disant, ben, le transhumanisme, d'une certaine façon, c'est une façon de commencer à dissocier l'humanité entre ceux, entre guillemets, qui seront augmentés, je mets des guillemets à tout ça, et qui vaudront la peine d'être sauvés, sous-entendu, et qui iront sur Mars ou ailleurs, hein, et puis tous les autres, dont on continuera d'extraire les données, qui serviront de matière première à ce développement transhumanisme, et finalement tout ça n'aura pas grande importance. Et c'est pour ça que je me permets de l'écrire. Le transhumanisme, pour moi, c'est le fait de faire passer en contrebande, en fait, avant toute chose, un anti-humanisme. Et je pense que vraiment, il faut qu'on réinjecte de l'humanisme dans cette nouveauté technologique aujourd'hui.
Alors justement, vous posez même la question d'un darwinisme généralisé chez ces gourous de la tech, et tout ça sous-tend aussi cette révolution numérique, en tout cas des IA que vous décortiquez dans le livre. Vous parlez même, vous reprenez l'expression d'un chercheur avec l'empathie suicidaire. Expliquez-nous, parce que tout ça fait écho et raconte quand même la face sombre de ce qui est en train de se jouer.
Oui, oui, bien sûr, c'est très important de le dire. Vous vous rendez compte? Alors, le chercheur en question, c'est un professeur canadien qui s'appelle Gad Saad, qui a écrit plusieurs livres, dont le dernier qui s'appelle L'empathie suicidaire. Je crois qu'il n'a pas été traduit en français, Suicidal Empathy. Ces liens sont extrêmement forts avec Elon Musk qui s'en revendique. C'est-à-dire que si vous suivez Elon Musk sur X, dès que Gad Saad poste quelque chose, Musk l'amplifie. Et donc l'idée, c'est que en fait, l'empathie, c'est une dégénérescence humaine. C'est-à-dire que l'empathie vous permet d'être attentif à ceux qui échouent, aux plus faibles, à ceux qui ne sont pas faits pour ce monde. Et donc, l'empathie, ça vous ralentit. Ça vous ralentit et ça ne vous permet pas d'explorer les nouveaux territoires. Et donc, l'empathie est suicidaire. Et donc, dans cette idéologie-là, il faut absolument mettre un terme à ce sentiment d'empathie. Il faut effectivement arriver sur, il s'en revendique, un anti-humanisme technologique, c'est-à-dire, ceux qui suivent. Ceux qui ont les moyens financiers, technologiques de suivre, et tous les autres, eh bien, tant pis. Tant pis, et c'est pas grave, puisque de toute façon, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, et tout le monde ne s'en sortira pas. Donc, c'est une sorte de darwinisme malthusien, si vous voulez, qui est de dire, tout ça n'est pas très grave. Et il faut bien avoir conscience que si on ne régule pas, ou si on ne rentre pas dans l'aspect politique, au sens noble du terme et philosophique de ce qui est en train de se passer, alors on laisse la bride sur le cou à des gens qui ont cette idéologie aujourd'hui.
Ce que vous le dites, les rois de la tech peuvent changer le cours de l'histoire, ils la façonnent selon leur vision. Là, ça renvoie à Peter Thiel notamment et les libertariens. Et on voit bien que derrière tout ça, il y a aussi ce projet politique. C'est ce qu'on est en train de dire en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a certes ces agents conversationnels, ces amis d'IA qui nous facilitent la vie, mais derrière, on voit quand même poindre un projet politique qui est profondément inégalitaire.
Totalement. C'est la fragmentation poussée à l'objet politique. On se parle alors que, il y a quelques jours, Jürgen Habermas est mort. Celui qui avait pour la première fois théorisé l'espace public comme un lieu, j'allais dire, universel de conversation où à un moment donné on oublie nos individualités ou nos intérêts pour devenir des citoyens et parler. Et Habermas, il y a 5 ou 6 ans, nous a dit, a écrit un papier, je me souviens plus de la date précise, mais enfin c'est à peu près dans cet ordre-là, en disant en fait les réseaux sociaux ont mis un terme à l'espace public. Il n'y a plus aujourd'hui de discussion, d'espace, de discussion rationnelle partagée où chacun oublie son intérêt. Ces gourous de la tech aujourd'hui, ils sont en train de se dire qu'ils se verraient très bien mettre un terme au contrat social en réalité, c'est-à-dire à cette capacité qu'on a une unicité de destin, non seulement dans l'humanité, dont ce qui a été traduit en français par le capitalisme de l'apocalypse, en anglais c'est crack-up capitalism, c'est-à-dire finalement un pays ça veut plus rien dire, une nation ça veut plus rien dire, on a des îlots qui fonctionnent chacun avec leur niveau de richesse, leurs ressources possibles et finalement leurs lois et leurs règles. Et donc je n'accepte pas d'être soumis à une règle commune parce qu'une règle commune n'a aucune légitimité. Et c'est puisque même Thiel, qui assimile presque la règle commune à l'antéchrist.
Oui, vous le racontez dans le livre, c'est complètement fou, parce que là, on rentre dans une idéologie, finalement.
Totalement. Et il y a cet aspect-là des choses. Et donc, si vous voulez en parler, c'est comprendre que tous ces outils qu'on adopte, si à un moment donné, ils ne sont pas soumis à certaines règles, qui existe partout. Je veux dire, aujourd'hui, en France, pour être médecin, il faut avoir fait des études particulières, pour être psychologue ou autre. Donc, si à un moment donné, vous demandez à une IA des conseils médicaux ou si vous demandez à une IA des conseils thérapeutiques, il faut que ça obéisse à un certain nombre de règles et que ça ne soit pas seulement livré à l'économie de la relation qui va vous rendre dépendant. etc., etc. On pourrait aller... Si demain, des IA prétendent nous donner l'information sur ce qui va dans le monde aujourd'hui, peut-être qu'il faut qu'à un moment donné, ça obéisse à un certain nombre de règles déontologiques. Encore une fois, on ne parle pas là de dictature profonde pour décider quelle IA a le droit d'exister ou pas. Mais le fait qu'à un moment donné, il y ait des règles transparentes ou qu'on sache à quoi s'en tenir. Aujourd'hui, moi, si je le souhaite, je peux manger des aliments qui ne sont pas bons pour ma santé, mais on me dit qu'il y a du sucre, c'est saturé en graisse, et si je veux manger des aliments qui sont saturés en graisse et en sucre, c'est ma liberté individuelle, mais au moins je sais que c'est saturé en graisse et en sucre. Aujourd'hui, dans une IA, je reprends cette métaphore approximative, vous ne savez pas quelles sont les saturations à un moment ou un autre du mode de fonctionnement des agents d'IA.
Ce qui fait qu'au bout du bout, vous posez la question, est-ce qu'on se dirige vers la fin de la démocratie libérale née des Lumières? Parce que tout mis bout à bout, on arrive à ça, on discute avec un agent conversationnel, on a cette IA qui fait cette confusion entre le réel et la fiction, et à la fin des fins, la question politique arrive, on en parlait à l'instant, mais en tout cas, il y a cette question posée sur la démocratie libérale.
Totalement, c'est-à-dire c'est bien pour ça que je plaide à la fin pour un humanisme, pour une réinvention de l'humanisme à l'heure du numérique, si vous voulez. Parce qu'encore une fois, penser que les cadres, j'allais dire nés de la révolution gutenbergienne, vont pouvoir s'appliquer de la même façon, alors qu'évidemment toutes les clés de voûte du bâtiment qui ont été posées avec des coups, on en a parlé, ça a mis quand même quelques décennies, voire quelques siècles, révolution gutenbergienne, puis on finit par poser un cadre, la science, l'espace public, la démocratie, mais ces fondements-là sont en train d'être sapés. Et donc, imaginez que le bâtiment qui a été construit sur ces fondations-là va pouvoir perdurer alors que les fondations elles-mêmes sont en train d'être attaquées, voire même parfois détruites, c'est s'illusionner. Mais en revanche, je pense qu'on peut poser d'autres fondations pour un nouveau cadre qui soit humaniste. Et je pense que les humanistes aujourd'hui doivent être des adversaires résolus des transhumanistes et de ceux qui portent idéologiquement ce message.
Vous posez la question, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Vous maintenez une part d'optimisme. Et pourtant, quand on voit toute la question de la régulation des GAFAM et le combat permanent que c'est, on se dit que là, c'est pas perdu d'avance? Est-ce qu'il y a encore des moyens? Les gourous de la tech sont la tête de fortune considérable, ont un poids politique. Il suffit de reprendre la photo de l'intronisation de Donald Trump avec tous les manias de la tech présents à cette cérémonie-là. Il y avait même la confusion du politique et de la technologie et des technos.
Oui, et ils y sont allés, certains par intérêt pur, parce que le président des États-Unis leur avait promis une absence de règles. Justement, donc vous aurez carte blanche, et d'autres y sont allés parce que idéologiquement il y avait une proximité. Mais de toute façon, qu'ils y soient allés pour telle ou telle raison, ils y sont allés. Mais en même temps, vous dites, je pose la question, est-il déjà trop tard? La phrase suivante, c'est il n'est jamais trop tard, et c'est qui est dans le livre. Et donc, si vous voulez, non, je pense pas. Moi, ce qui me rend soucieux, ça c'est le coût d'adaptation et le temps d'adaptation avant de poser ces nouveaux cadres. Et je pense que plus vite on y réfléchit, plus vite on pose, moins le coût ou le temps d'adaptation va être fort et va être long. Et donc on est encore dans... Vous vous rendez compte, ChatGPT, c'est arrivé il y a 2 ans. Et puis finalement, Internet, on en a parlé tout à l'heure, c'est 1989. Et en réalité, l'Internet grand public, c'est à partir des années 2000, donc ça a à peine un quart de siècle. Donc ça va très vite, ça s'accélère à toute vitesse. Mais en même temps, quand vous regardez les prises de conscience des uns et des autres, même ceux dont on est en train de parler, alors ça tâtonne, on peut considérer que ça n'a aucun sens d'interdire les réseaux sociaux ou qu'il faut les interdire, mais en même temps, c'est dans le débat, c'est dans l'espace public. Vous dites vous-même que les grands manias de la tech veulent absolument empêcher toute forme de régulation, mais le fait même qu'on essaye de leur imposer de la régulation montre que la prise de conscience a eu lieu. Donc après, tout ne se fait pas évidemment facilement. Ce sont des combats, ce sont des combats humanistes et démocratiques, mais je pense qu'ils peuvent être menés à bien, oui.
On arrive pratiquement au terme de notre entretien, Bruno Patino. Je voudrais qu'on revienne sur... Ça va être une forme de conclusion, mais vous le dites dans votre livre, et ça va faire écho à tout ce qu'on vient de dire, notre passivité est la clé de voûte là, pour le coup, c'est un appel au réveil des consciences et à prendre justement conscience de cette façon de déléguer à quelqu'un, à une machine, beaucoup de nos habitudes du quotidien, y compris nos émotions.
Oui, c'est ça, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en réalité, rien n'est plus addictif que la passivité. En réalité.
On disait il y a quelques années, il y a quelqu'un qui avait dit, et vous reconnaîtrez son auteur, on va chercher le temps de cerveau disponible.
Oui, mais en même temps, ce que Patrick Lelay disait, c'était vrai. Et puis, en fait, c'était la traduction française de la première fois que l'économie de l'attention a été posée. C'était en 69 par un Américain qui avait dit exactement la même chose, si vous voulez. Mais ça, c'était l'économie de l'attention. Avec l'économie de la relation, c'est pas seulement un, j'absorbe ce qui m'est donné, mais comme vous l'avez très bien dit, je délègue. Je me repose de plus en plus sur un outil pour prendre une décision, parler à quelqu'un, savoir quoi lui dire. Il y a une étude qui est parue récemment aux États-Unis. Le nombre de jeunes qui, avant un rendez-vous avec un amoureux ou une amoureuse, demandent conseil à une IA, explose de façon exponentielle. Je vais la voir ce soir, etc. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Tous les recruteurs aujourd'hui savent que pour préparer un entretien d'embauche, de nombreux candidats, quel que soit leur âge, demandent conseil à une IA. Donc, vous voyez le niveau de délégation, mais là où on arrive au centre, si vous voulez, la passivité, c'est pas forcément la délégation, c'est le fait de ne pas se poser la question de la confiance avant de déléguer. Et donc, c'est ça le central.
Très bien, on fait confiance à quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne comprend pas très bien non plus.
Non, on sait l'utiliser, mais on ne connaît ni les motivations, je mets des guillemets évidemment, parce qu'une IA n'a pas de motivation, mais son mode de fonctionnement, c'est sa motivation d'une certaine façon. Donc on ne sait pas en réalité pourquoi cette IA va nous répondre de telle ou telle façon. Et donc, moi je pense toujours au total, et ça fait de moi peut-être quelqu'un de simpliste, que si vous voulez, tous ces outils sont d'abord paramétrés pour répondre à leur modèle économique. Et que la motivation d'un agent IA, à un moment donné, c'est développer, si j'ose dire, sa part de marché chez moi. Et donc, son mode de fonctionnement, c'est effectivement d'être la plus importante pour moi, pour pouvoir me vendre de la publicité, de l'abonnement ou des services.
Alors, Bruno Patino, ça va être le moment de conclure. Et je voulais, en lisant votre livre, je me disais qu'il y avait peut-être un autre titre qui aurait pu s'imposer. Il a déjà été pris, vous reconnaîtrez son auteur. Mais quand on vous lit, on a l'impression d'être dans le journal d'un prisonnier. Est-ce que ça peut vous faire réfléchir ? Est-ce que vous partagez cette approche et ce constat, finalement ?
Oui, c'est un excellent titre. Mais comme vous le savez, il était pris. Il a été pris, c'est un excellent titre. En plus, utilisé pour la sortie, s'est fait assez vite, en fait. Moi, je crains que notre journal de prisonniers soit un peu plus long sur la durée que l'autre. Il y a un autre titre auquel j'avais pensé qui n'était pas aussi accessible pour des raisons évidentes, c'était la grande illusion.
Voilà, merci Bruno Patino pour toutes ces explications. Je rappelle le titre de votre livre, Le temps de l'obsolescence humaine chez Grasset, voilà, pour plonger dans cette mécanique et en tout cas cette croissance exponentielle de l'IA dans nos vies quotidiennes. Il y a encore quantité de choses à découvrir dans votre livre. Voilà, c'est une plongée sans fil dans cet univers-là qui nous impacte tous les jours. Merci beaucoup Bruno Patino pour cet entretien.
Merci à vous, merci beaucoup.